Aujourd'hui, dans l'émission Trajectoire de vie, je vous propose d'écouter le témoignage de Farid. Farid, bonjour.
Bonjour Mireille.
Je vous laisse vous présenter.
Alors, je m'appelle Farid et puis je suis d'origine algérienne. Et mes parents sont algériens et j'ai 6 frères, 3 sœurs, dont un est décédé en 97. Et j'ai grandi à Strasbourg. Mon enfance était très bien passée.
Et vous avez une histoire à nous raconter, votre histoire qui est quand même un peu particulière. Vous avez passé une enfance heureuse, mais après, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, tout a commencé à partir de 15-16 ans, quand j'ai quitté le collège, parce qu'en fait j'ai pris une autre orientation. Au lieu de continuer le cursus normal scolaire, j'ai été intégré dans un lycée d'enseignement professionnel où je devais apprendre à naviguer des bateaux, donc matelot, et après passer les échelons. Mais mon cœur n'y était pas en fait. Mes premiers désirs, c'était vraiment vouloir ou pompier ou vouloir être footballeur professionnel. Mais on n'a pas été attentif à ses souhaits. Donc, comme j'étais jeune, mes parents sont d'origine étrangère, ne sachant pas comment faire. Et du coup, au lieu de faire la 4e, 3e seconde, je suis allé dans ce LEP. Et j'y suis resté un an. Pendant ces un an, j'ai essayé de pouvoir apprendre ce métier, mais je n'ai pas réussi. Et du coup, pendant cette année, j'ai eu une mauvaise fréquentation parce que je prenais le transport en commun qui traversait le centre-ville. Je rencontrais d'autres personnes qui, elles, avaient quitté l'école. Et c'est là que j'ai fait du pickpocket. Et du coup, je me suis retrouvé en prison pendant un mois. Et là, le juge m'a enfermé. Et puis quand j'ai été relâché, au bout de un mois, j'ai voulu réintégrer le LEP, ce lycée d'enseignement professionnel, et on n'a pas voulu de moi.
Quel âge vous aviez à ce moment-là?
16 ans, 16 ans et demi. Et je me suis retrouvé dans la rue. Et c'est là que j'ai commencé à faire les 400 coups, les bêtises. Quand on est dans la rue avec d'autres personnes comme soi-même, ben, la première des choses, c'est faire de l'argent. Et on fait des bêtises, on vole, et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à voler. Et du coup, une personne est venue vers moi et m'a proposé de vendre la drogue, alors que j'étais contre la drogue. Donc c'était plus l'appât du gain qui m'a aveuglé, en fait. J'étais plus attiré par l'argent. J'étais pas conscient, en fait, que je vendais la mort, que je faisais du tort et du mal. C'était plus pour l'intérêt propre, pour gagner de l'argent, pouvoir payer ce que j'avais besoin. Donc j'ai abandonné le vol et j'ai commencé à vendre de la drogue. Donc j'ai commencé à être un dealer.
Ensemble, sur Phare FM Haguenau, dans l'émission Trajectoire de vie, vous écoutez le témoignage de Farid.
Je crois qu'on ne va pas jouer avec les mots. J'ai été devenu un dealer. J'étais un dealer de drogue. Mais je faisais ça en cachette. Mes parents n'étaient pas au courant, mais je cachais tout chez moi.
Est-ce que vous avez vous-même pris de la drogue?
Alors, il faut savoir que je me suis associé avec une autre personne qui vendait dans le quartier, pas loin. Et du coup, cet ami et moi, on a tissé des liens d'amitié. Je l'aimais beaucoup. À ce jour, il est décédé. On a eu de bons échanges, on était de bons amis. Et lui-même touchait la drogue. Et du coup, je l'ai essayé de l'empêcher de se droguer parce qu'il se shootait. Et un jour, on rencontre des amis à lui. On voulait aller en discothèque en Allemagne. Et comme moi, j'entreposais tout chez moi, je lui dis « Ok, d'accord, je veux bien aller en Allemagne, il faut que tu me déposes, que je me prépare et je récupère un peu d'argent et puis après, on peut y aller. » Et donc, il me dépose, je me prépare, je m'habille et tout. Je sais pas, je traverse le couloir pour aller me poser au salon en attendant que mes amis viennent me chercher. Et au bout du couloir, je m'arrête instantanément. Je sais pas, j'ai l'esprit vide, comme hypnotisé. Je fais demi-tour et je me dirige vers le placard. J'ouvre le placard, je regarde à droite, à gauche, il n'y a personne. Je plonge la main dans ma cachette, je prends un peu de drogue. Je ferme la porte et derrière mon dos, il y avait la salle de bain. Je vais au fond de la salle de bain, sur la machine, je mets un peu de drogue. Et donc là, je le renifle, je le sniffe, comme on dit. Je me débarbouille le nez et tout, et je vais au salon, en attendant qu'ils viennent. Et là, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai un peu mal à la tête, je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, ce sont les effets. Avec du recul, je savais maintenant ce que c'était. Et du coup, je n'ai pas trop aimé. Et le temps qu'ils viennent, ça devient de plus en plus fort. J'avais des envies de nausées et tout. Et quand il est venu, finalement, je ne pouvais pas aller dans cet état. C'était trop fort. Du coup, je me suis endormi au salon. Et le lendemain matin, au lieu de prendre conscience, qu'est-ce que tu as fait, Farid, mais non, il ne faut plus jamais et tout. En fait, je m'étais juste dit, comme j'ai eu un mauvais délire, j'ai dit, bon ben, non, jamais je retomberai. Et j'ai plus jamais touché pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à en mettre dans la cigarette. Je vidais son tabac, je mélangeais avec un peu de drogue et je la fumais comme ça. Après, au bout de 6 mois, quelques temps, comme c'était fort et tout, je la sentais plus, je commençais à la renifler. Après la renifler, je commençais à essayer on shoot en l'injectant. Et puis, c'est comme si cette drogue devenait de plus en plus... devenait moi, me prenait ma personnalité, j'avais plus besoin d'elle. J'existais plus, sans ça, je pouvais plus être. Et je pensais pouvoir la gérer. En fin de compte, un matin, je me lève, je dis non, j'ai besoin de toi pour être. Et je commençais à être un toxicomane sans me rendre compte. Je commençais à perdre mes relations, à perdre mes contacts. Et donc, il fallait que je me débrouille. Je commençais à vendre mes biens. Et du coup, j'ai tout perdu et j'ai commencé de nouveau à voler.
Et c'est là. Parce que vous aviez besoin de drogue, donc il vous fallait de l'argent.
Il me fallait de l'argent pour consommer la drogue, pour avoir ma drogue, exactement. Et que c'est là que j'ai fait également beaucoup de prison. Enfin, j'avais vraiment une vie décousue, un bandit, un voyou. Et j'étais malheureux. Et je voyais ma peau sur les os, j'étais maigre. Et je savais ce que j'étais en train de devenir, c'était pas moi. Et mes parents m'ont emmené en Algérie, j'étais avec ma grande sœur aussi, pour faire des cures. J'étais à Saverne en cure. J'étais une fois aussi en psychiatrie, un lieu où pendant une semaine je pouvais faire une cure. Ça n'a pas marché. Et pendant tout ce temps, j'étais malheureux, j'étais emprisonné dans cette drogue. Donc, juste pour faire un petit retour, tout ce périple, ma grande sœur, elle était déjà chrétienne, Samia. Et c'est elle qui m'a apporté l'évangile, qui m'a parlé de l'évangile. Et j'ai dit, moi, je ne veux rien savoir. Je suis musulman, je crois en Mohamed. Et du coup, par curiosité, elle me dit, écoute, je laisse quand même la Bible. Par curiosité, dans un premier temps, j'étais attiré, je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Et donc, des fois, je passais des après-midi à lire la Bible. Mais ça, personne ne savait. Et je refermais. Et j'étais obligé dans le sens où je vaquais de nouveau à mes obligations illicites, à la drogue, à la fréquentation.
Ensemble, sur Phare FM à Guenot, dans l'émission Trajectoire de vie, vous écoutez le témoignage de Farid.
Un jour, quand j'ai vu que j'en pouvais plus, je connaissais déjà les psaumes, je connaissais déjà un peu Jésus, mais ça ne vivait pas dans mon cœur. J'ai relu l'histoire de Moïse. Et juste un peu avant, il y a eu un fait assez important, j'ai vraiment pété un plomb. C'est-à-dire, j'étais vraiment dans l'angoisse, vraiment dans les tourments à cause de cette drogue. Qu'à un moment donné, j'ai failli me suicider parce que ma mère n'en pouvait plus. Et du coup, j'ai dû prendre un appartement, j'ai mis le feu, je voulais me suicider. J'avais appelé ma grande sœur, elle ne répondait. Comme par hasard, tout le monde était sur répondeur. Personne. 4h du matin, j'étais dans la salle de bain, sous le lavabo, et j'ai pris un coup de couteau, je voulais me planter sous le ventre, et je criais, j'étais dans un désarroi. J'étais vraiment... j'en pouvais plus. Je savais pas comment faire. Et alors, je suis retourné chez mes parents, et c'est là où il y a un apaisement, entre guillemets, et je relisais de nouveau la Bible, les psaumes, et pendant 3 jours, j'ai relu l'histoire, l'exode du peuple hébreu. Donc en lisant, ce qui m'a interpellé, c'est la puissance, c'est la grandeur, et en même temps, cette proximité avec Dieu que Moïse avait. Donc moi, j'avais, en étant musulman avant, une certaine compréhension de Dieu, une certaine image. Qu'il est sur son trône, qu'il est strict, qu'on fait des bêtises, on va être corrigé. J'avais ce Dieu-là. Mais quand j'ai lu avec Moïse, je me suis dit, mais comment tu te permets avec ce Dieu, Moïse? Il te fait grâce, il t'accorde la grâce et tu lui demandes encore de voir sa gloire. Et il y a un échange, une discussion. Et j'ai été touché. En plus, c'est un homme qui avait la langue lourde, qui ne savait pas parler. Et Dieu l'a appelé. Et donc, j'ai été touché par ça, par cet échange-là. Et donc, j'ai refermé la Bible et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu nous aimes, que tu as donné Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Je sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je le comprends dans ma tête, mais ça ne vit pas dans mon cœur. Et du coup, une petite voix s'est fait entendre et qui m'a dit, c'est normal, tu as le cœur dur. Et quand il m'a dit ça, ça m'a rappelé un verset qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 36 au verset 26. En fait, Dieu disait au peuple hébreu, aux Israélites, que viendra un temps où Dieu changera leur cœur de pierre en cœur de chair et qu'il allait mettre son esprit et qu'il allait graver ses paroles dans les tablettes de leur cœur et ainsi ils pouvaient honorer les commandements, les ordonnances et les préceptes de Dieu. Et du coup, quand ce verset était venu monter à mon esprit, j'ai dit, Seigneur, selon toi, j'ai le cœur dur. J'ai dit, s'il te plaît, donne-moi un cœur sensible, alors un cœur de chair. Et hop, une autre prière est née. J'ai pris conscience qu'en fait, j'avais pas peur de Dieu, que je le respectais pas. Et je me suis vu entendre en disant, Seigneur, pardonne-moi, je te crains pas, apprends-moi la crainte. Et hop, une troisième prière s'est dénouée. J'ai réalisé qu'en fin de compte, c'était un leurre, je croyais aimer les gens et il est écrit dans la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est difficile. Et j'ai réalisé qu'en fin de compte, mon cœur était vide. Et en fait, Dieu était en train de mettre à lumière le processus parce qu'il était en train de m'attirer à lui et je ne pouvais pas comprendre comment le rencontrer. Et il était en train de m'attirer à lui pour cette rencontre. Et du coup, j'ai dit alors, Seigneur, pardonne-moi, je croyais aimer. J'ai pas d'amour pour aimer mon prochain comme moi-même. S'il te plaît, tu ne fabriques pas l'amour, tu es amour. Et je te prie que de ton cœur à mon cœur, cet amour se déverse et que je puisse aimer mon prochain comme moi-même.
Ensemble, sur Phare FM Haguenau, dans l'émission Trajectoire de vie, vous écoutez le témoignage de Farid.
Ce qu'il faut savoir, c'est quand un malheureux crie à Dieu, Dieu l'entend et le répond, et il en délivre de toutes ses détresses. En arrière-plan, il y avait ma sœur, ma famille qui priait pour moi. Moi, j'avais fait cette expérience, et en parallèle, ma petite sœur, qui est aussi chrétienne, avait prié pour Dieu, comment faire avec mon frère, je l'avais hébergé, moi je vais partir en vacances, comment on va faire? Et du coup, elle reçoit un prospectus de Teen Challenge, un centre d'accueil pour les toxicomanes, pour les alcooliques, pour les drogués. Ce centre d'accueil accueille ces personnes, ce sont des hommes et des femmes de foi, d'humanisme, de bonté qui aident ces gens-là. Et le fondateur, c'est David Wilkerson, un pasteur qui est décédé aujourd'hui et qui avait évangélisé le quartier à New York, on appelle le Bronx. Deux groupes de gangs se sont convertis, dont l'un s'appelle Nicky Cruz et beaucoup connaissent. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et du coup, ma sœur me donne ce prospectus, elle me dit « Écoute, voilà, ça serait bien que tu ailles là et tout. » Et comme j'étais désemparé, j'ai tout essayé, j'ai dit « Écoutez, faites, je veux bien y aller, mais remplissez-vous les papiers, tout ce qu'il faut. » Et moi, je dis « Oui. » J'ai pris mes bagages. Et du coup, le jour où je suis allé, il fallait que j'aille avec rien, en fait. Là-bas, on ne pouvait pas fumer de cigarettes, pas de petits médicaments, rien. Et du coup, le lundi, j'étais allé à jeun. Mais le manque commençait à venir. Donc j'ai pris dans le bar, dans le train, j'ai pris quelques bières, une fois tous les une demi-heure, trois quarts d'heure, pour juste pour calmer, pas pour me saouler, pour calmer les douleurs dans le dos. J'avais des chaud, j'avais froid, je tremblais et tout. Et finalement, ça s'est stagné légèrement et tout. Et arrivé là-bas, j'ai fumé ma dernière clope et j'ai jeté mon paquet. Et on m'a accueilli. Donc c'était en juin 2003. Et là, j'ai encore eu d'autres péripéties parce que quand je suis arrivé, j'ai dû partir avec eux en Pologne. Mais c'est pour ça que j'ai dit mon histoire, elle est rocambolesque. Mais Dieu avait toujours sa main bienveillante pour me faire grâce, pour que je goûte à son amour. Un an avant de partir à Teen Challenge, j'avais fait des achats dans un magasin sport en Allemagne. Et du coup, là, ils m'ont attrapé. Donc j'ai été auditionné, j'avais avoué, ils m'ont relâché. Mais quelques temps après, ils m'ont donné un rendez-vous au tribunal. Et comme je ne sais pas lire l'allemand, le courrier, je l'avais pris déchiré. J'ignorais, ils avaient lancé un telex dans toutes les douanes, toutes les frontières. Et du coup, donc j'arrive avec le centre d'accueil. On rentre, ça se passe bien, on est en Pologne avec tous les Teen Challenge européens réunis. Enfin, une conférence, ça s'est bien passé. Et au retour à la douane, contrôle, on prend mes papiers, on met les menottes. Donc tout juin, on m'incarcère. Et là, on me dit, tu vas passer au tribunal. Donc je suis resté un mois. Pendant un mois, je suis resté, je priais le Seigneur qui m'aide. Et du coup, le 6 juillet, je suis relaxé, relâché, parce qu'ils ont vu que j'étais entre de bonnes mains, en fait, dans une bonne configuration, pas comme la fois précédente quand tu m'avais interpellé. Le Seigneur était là, il m'a fait grâce, il m'a relâché, il m'a dit, on ne peut pas vous laisser comme ça, on va quand même vous donner quelque chose. Donc ils m'ont donné 2 ans de sursis, mis à l'épreuve. Et là, ils m'ont relâché, je suis retourné chez moi, mais eux n'ont rien compris le centre. Donc j'ai dû leur expliquer, je suis à nouveau allé, parce que je voulais aller jusqu'au bout du programme, de juillet, août, septembre, 3 mois je suis resté. Mais le Seigneur a permis juste ce laps de temps pour que je sois touché par sa grâce.
C'est l'histoire de Farid qu'on écoute ensemble dans l'émission Trajectoire de vie sur Phare FM Haguenau.
Une après-midi, il y a un des responsables qui nous donne un cours sur l'amour de Dieu. Donc pendant qu'il donne son cours, il explique les 3 types d'amour et il y a une personne qui commence à pleurer. Et quand elle pleure, dans mon cœur, je murmure, je dis « Mais pourquoi elle pleure ?» Et soudainement, je vous dis, une puissance, mais douce, qui vous fait aucun mal, et vous sentez que vous allez éclater en sanglots. Mais comme j'ai un arrière-plan dans le sens où je viens des quartiers, on ne peut pas montrer ses sentiments, je ne peux pas éclater comme ça. Donc c'est comme si je retenais, mais j'étais tellement fort, je ne pouvais pas. J'ai dû m'excuser, j'ai dû aller dans ma chambre, et là je ferme la porte, et je tombe à genoux. Et là, quand je tombe à genoux, je commence à pleurer, comme on dit, de tout mon être. En fait, j'ai été convaincu à ce moment-là que j'ai été un pécheur. Vous savez, quand on dit pardon, j'ai péché ou j'ai fauté, oui, c'est une chose. Mais de réaliser dans sa chair pleinement, c'est différent. Et là, j'ai réalisé que j'ai offensé Dieu, que j'ai fait du tort à ma famille, à mes amis autour de moi et à moi-même. Parce qu'il est écrit, celui qui pêche nuit à son âme. Et j'avais nuit à mon âme. Et du coup, je lui demandais pardon. Et pendant que je demandais pardon, toutes les mauvaises choses me revenaient à l'esprit. Et Dieu était en train de me les effacer, me faire grâce. Et là, j'ai réalisé que Jésus était le Fils de Dieu réellement. Vous vous rappelez? Je disais qu'au début, mon Dieu, je sais ce qui est écrit, je le comprends intellectuellement, mais ce n'est pas encore descendu dans mon cœur. Et là, c'est comme si ça devenait vivant. Enfin, c'était devenu vivant. Et j'ai dit, ok Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans mon cœur et dans ma vie. Et au moment où j'ai dit ça, il y a un voile qui s'est ôté. Je savais que j'étais réconcilié avec Dieu. À ce moment-là, je savais que j'étais réconcilié avec Dieu. Et c'est là où je prends toutes mes vieilles, mes habits qui coûtaient cher. Je rassemble le tout, je mets ça dans un sac de poubelle. Et je regarde juste une tenue qui était saine pour moi. Parce qu'à ce moment-là, je voulais vraiment poser un acte devant Dieu. Que j'ai compris et qu'enfin maintenant je vais prendre cette nouvelle vie qui m'attend. Donc j'ai pris ce sac et je suis sorti dehors. Et puis dehors, devant la propriété, il y avait des poubelles. Et j'ai ouvert la poubelle. Mais avant de jeter ce sac, comme si je jetais ce sac de mon passé, je dis, Dieu, tu as dit que toutes choses sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Regarde mon Seigneur, je jette mon sac. Je ferme la poubelle, je rentre de nouveau et je vais dans la chambre. Et j'ai été conduit et j'ai dit, mon Dieu, le monde est méchant. On est méchant, mais je ne sais pas de quoi il sera fait demain. S'il te plaît, apprends-moi à être spécialiste, plus dans le bien que je l'ai été dans le mal. Et fais de ma vie ce que tu veux. Et depuis, je suis cette nouvelle personne et qui partage ma foi. Je vais à l'église régulièrement. Je lis ma Bible tous les jours et j'ai ma relation intime avec Dieu. Et j'ai une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de penser. J'ai été vraiment changé dans mon cœur et j'ai vraiment reçu ce cadeau en fait. Quand Jésus dit « il est mort pour nous », c'est vrai. Pourquoi ? Parce que simplement, aucun homme ne peut faire des œuvres, même si bonnes soient-elles, pour se sauver. Parce que en soi, l'homme est foncièrement méchant, le cœur de l'homme est foncièrement méchant. Donc il ne peut pas se sauver. Par contre, Jésus étant pur, le salaire du péché c'est la mort. Alors Dieu a dit, comme vous méritez la mort, personne ne peut être sauvé. Alors je vais payer le prix, au lieu de le payer sur vous, sur chacun d'entre vous, je vais le payer sur Jésus. C'est ça l'amour de Dieu. Et quand on réalise son amour, cette grâce, ça change notre vie. Et du coup, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai été inondé de son amour, et depuis je suis habité par son amour. Et parfois, c'est pas facile, il faut dire la réalité des choses, pour que ceux et celles qui entendront se disent « mais ouais, c'est un monde de bisounours ». Non, mais une chose est certaine, dans les épreuves, quand on voit une n'a pas Dieu et un a Dieu, il y a une réelle différence. Quand il dit « quand tu m'appelleras, je répondrai, et quand tu crieras, je dirai « me voici ». C'est vachement différent.
Merci Farid. Après ce témoignage, quel message vous avez envie de laisser aux auditeurs ?
Ce que je pourrais laisser comme message, je ne sais pas, il ou elle, ce qu'elle pourrait traverser. Mais je sais qu'on est tous pareils. On veut tous le bonheur. Et nous sommes tous des chercheurs. Chercher quoi ? Le chemin, la vérité. Pour avoir quoi ? Pour avoir la vie. Et dans ces questionnements, chacun traverse parfois des moments très difficiles ou est éprouvé dans des épreuves difficiles. Ce que j'aimerais juste dire, c'est que où que tu te trouves, quand tu entendras ce message, ça prouvera qu'il y a une porte pour toi ouverte et qu'il y a une solution et que rien n'est définitif. Il n'y a pas de fatalisme. Et la solution qui solutionne les problèmes et surtout qui accorde le salut à ton âme, c'est Jésus-Christ. Car aucun homme, aucun philosophe, aucun roi, aucun prince dans ce monde, aucun des grands qui a traversé l'histoire a dit de lui-même, ni même dans tous les livres de religion, les trois religions monothéistes, dit de lui-même, si ce n'est Jésus, je suis le chemin, la vie et la vérité. À celui qui traverse une difficulté qui est ancrée dans l'alcool, l'alcool est ancré en lui et qui essaie de s'en sortir, qui n'arrive pas, qu'il crie à Jésus. Car Jésus est venu pour briser les chaînes, pour délivrer ceux qui sont prisonniers. Jésus est venu pour délivrer ceux qui sont dans les ténèbres. Et tous ceux qui sont dans une forme d'addiction sont dans une forme de ténèbres. Et la seule pensée que je peux partager, garde l'espoir en Jésus, parce qu'il t'aime.
Merci Farid.